Commence par la première partie, à peu près la partie introductive qu'on va voir aujourd'hui rapidement. Commence par le credo. Et donc, tout ce premier trimestre sera consacré à l'étude du credo. On va voir article après article, l'ensemble de la révélation qui, je le rappelle, est close à la mort du dernier apôtre. Il n'y a pas de nouvelle vérité à attendre d'un ange ou d'un ou d'une voyante ou de telle ou telle apparition. Tout ce que nous devons savoir pour être et tout ce que nous devons savoir, tout ce que nous devons croire et faire pour être sauvés est contenu dans la révélation. Et cette révélation, elle est close à la mort du dernier apôtre, Saint Jean, okay, celui qui a vécu le plus ancien. Pourquoi les derniers apôtres? Parce que les apôtres, vous le savez, avaient chacun personnellement une assistance personnelle du Saint-Esprit, faisant que sur la foi et sur les mœurs, ils étaient toujours infaillibles. Voilà. Vous pouvez comprendre, c'est bien pratique. À l'heure où il n'y a pas de moyens de communication, ils étaient aux quatre coins du globe en train de fonder leurs églises. Vous comprenez que c'était quand même nécessaire pour garantir l'unité de la foi au détriment de l'extension géographique de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle, et voilà, et c'est la raison pour laquelle, cette révélation s'arrête, si je puis dire, avec la mort de Saint Jean, hein, qui fait partie donc de ces apôtres, c'est-à-dire des témoins de la mort et surtout de la résurrection du Christ. Après la mort du dernier apôtre, après la mort de Saint Jean, l'Église a pour mission de conserver, de transmettre fidèlement, d'expliciter, d'expliquer la révélation, mais aucunement de la modifier. C'est très important. Le magistère ecclésiastique, on en avait parlé en fin d'année, constitué du pape et des évêques unis à lui, qui ont donc le pouvoir d'enseigner au nom du Christ, ils ont un pouvoir d'enseignement qui est là pour transmettre la révélation, attester que tel point est conforme ou pas conforme avec la révélation, mais ce magistère n'a pas pour mission, de compléter la révélation, ou encore moins de la modifier. Ça, c'est très important de le comprendre. Le Concile Vatican I contre le modernisme le rappellera solennellement et infailliblement dans la Constitution dogmatique Pastor Eternus, et surtout Dei Filius, pardon, et le Concile Vatican II le rappelle dans la Constitution Lumen Gentium. Voilà. Ces prérequis étant rappelés, nous allons pouvoir donc prendre notre catéchisme, alors qui se divise en deux parties. Il y a une première partie, c'est la partie pour les enfants, qui suit le maternat dont je vous parlais. Mais voilà, donc c'est tout petit, il y a 90 pages, et donc je fais abstraction de cette partie-là, on va directement à la partie pour les adultes qu'on appelle le grand catéchisme. Hein, il y a le petit, le grand catéchisme. Donc vous voyez, on gagne déjà 90 pages avant même de commencer. Voilà. Alors, leçon donc préliminaire avant de commencer à étudier notre catéchisme à proprement parler et la première partie qui est donc le credo, nous avons cette leçon introductive sur la doctrine chrétienne. Première question, êtes-vous chrétien? Alors, réponse, en tout cas de l'époque, c'était oui, je suis chrétien par la grâce de Dieu. Et c'est important de bien comprendre que tout ce que nous l'avons de Dieu, et dans l'ordre de notre relation à Dieu, nous n'avons aucun mérite. En tout cas, nous n'avons aucun mérite initial. Le fait d'être baptisé, d'être né dans une famille chrétienne ou d'avoir la grâce de la conversion, c'est par définition, je viens de le dire, une grâce, et comme le rappelle le catéchisme, c'est une grâce. Personne ne mérite d'être chrétien, autrement dit. Personne ne mérite d'être un petit Christ, d'être un frère adoptif de Jésus et d'avoir en lui cette vertu de foi qui le fait adhérer à l'ensemble des vérités que nous allons étudier cette année. Donc c'est bien important, pour éviter toute vantardise, déplacée, de comprendre que notre titre de chrétien et tout ce que nous avons reçu par l'Église, c'est un cadeau de Dieu dont nous sommes bien indignes. Et si nous l'avons reçu, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est par grâce, c'est-à-dire par amour gratuit. Grâce, gratia, gratis, c'est ce qui est donné, un don de Dieu. Alors pourquoi certains naissent dans des familles catholiques et pourquoi certains ne naissent pas dans les familles catholiques, ça c'est le mystère de Dieu. Vous savez que l'amour n'est pas égalitaire, je ne vais pas rouvrir un débat, mais Dieu ne voit rien à personne. Hein, et donc, il n'y a pas d'injustice à gratifier une créature plus qu'une autre de ses dons. Alors il faut tenir, bien sûr, que Dieu donne à chacun la grâce suffisante pour faire son salut, en tout cas à chaque personne ayant l'usage de la raison, la grâce suffisante pour faire son salut. Autrement dit, ceux qui se damnent uniquement par leur faute, c'est tout à fait vrai. Mais il faut affirmer dans un même temps, à la suite du Concile de Trente, nous n'avons pas tous les mêmes grâces et que certains en ont plus que d'autres pour faire leur salut.
Mais tout le monde peut faire son salut.
Mais tout le monde peut faire le salut, tout le monde a la possibilité réelle, non pas simplement fictive, enfin non pas simplement virtuelle, mais réelle de faire son salut. Autrement dit, tout le monde a une première grâce que Dieu donne, qui, si elle est portée à germer et à éclore, grâce au concours de la volonté libre de l'homme, va appeler d'autres grâces qui va amener jusqu'à la conversion. Mais s'il y a un blocage du côté de la volonté libre, Dieu peut redonner une grâce pour ressusciter une adhésion, mais il peut aussi ne pas la redonner sans injustice. Le mystère, c'est pourquoi il va donner trois fois une grâce de conversion à quelqu'un qui la refuse déjà deux fois, et puis qu'une fois à quelqu'un qui... Oui. Bon, ça, c'est le mystère de Dieu. C'est ce qu'on appelait le mystère de la prédestination. Le Concile de Trente la rappelle aussi que nul n'est prédestiné à l'enfer. Dieu ne veut d'aucune volonté positive la damnation. Voilà. En soi, il veut que tous soient sauvés. Mais il faut dire que ceux qui sont en enfer le sont uniquement par leur faute, par leur refus coupable de la grâce de Dieu, qui n'a pas fait défaut. Et ceux qui sont au ciel le sont d'abord et avant tout par la grâce de Dieu, auquel, il est vrai, les hommes ont acquiescé. Mais ce qui est toujours premier, c'est la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il y a dans cette idée de prédestiné. Seuls ceux qui sont au ciel sont prédestinés. Il n'y a pas de prédestination à l'enfer, bien sûr. En revanche, ceux qui sont au ciel sont prédestinés parce qu'ils sont l'objet d'un amour de choix et qui a fructifié de par la coopération libre de l'homme, mais cette conversion libre de l'homme, elle se fait sous la motion de la grâce. Et c'est le mystère, encore une fois, de l'articulation entre la grâce et la liberté. Bon, là, je dépasse largement mon sujet. Mais tenez bien que chacun a réellement la possibilité de faire son salut. Nul ne peut en vouloir à Dieu s'il est damné. Mais tous n'ont pas les mêmes grâces pour faire son salut. Certains en ont plus. Voilà, ça, c'est capital. Et c'est deux fois. Et ajoutons que la première grâce est toujours complètement gratuite. Elle n'est pas conséquente à un acte bon de notre part. Et en ce sens, eh bien, la conversion est toujours d'abord le fruit de la bonté de Dieu pour nous, et non pas d'abord le fruit de notre bonne volonté. Parfois on dit « Ah oui, tout le monde peut se sauver du moment qu'on fait ce qu'on pense être bien dans notre cœur, donc on suit sa conscience. » Donc même si je tue des gens au nom de Dieu, si je suis vraiment de bonne foi en pensant que je fais le bien, du coup je vais être sauvé parce que je suis un bon musulman. Non. La bonne foi ne sauve pas. La foi vraie animée, la charité sauve. Mais la bonne foi ne sauve pas. La bonne volonté ne sauve pas. Elle est une condition pour être sauvée, mais elle ne sauve pas. Je peux être sincère dans mon erreur, mais ce n'est pas ma sincérité qui fait que je me sauve. Ma sincérité peut m'excuser de la responsabilité d'un acte mauvais et ainsi permettre que je n'ai pas chassé la grâce malgré l'acte mauvais que j'ai fait parce que je pensais vraiment bien faire. Mais c'est jamais la bonne foi qui sauve. C'est jamais l'erreur invincible qui sauve. Vous voyez ? C'est jamais l'ignorance non coupable qui sauve. C'est malgré l'ignorance non coupable que, par la grâce de Dieu que je n'ai pas refusé coupablement, je peux être sauvé. Mais ça, c'est important, parce que vous voyez, quand il y a eu une remise en cause des missions à la suite du dernier concile, après la promotion justement de l'indépendance des consciences individuelles et du respect de la dignité inaliénable de chacun, certains ont relativisé l'importance des missions. En disant, les missions, c'est bien si on peut aller apporter Jésus dans l'autre bout du monde, parce que c'est quand même mieux d'y aller avec Jésus que sans Jésus. Puis Jésus nous dit des choses extraordinaires, donc c'est quand même bien. Mais c'est plus absolument nécessaire pour... C'est pas écrit comme ça dans le concile, mais c'est comme ça que c'était compris. C'est plus absolument nécessaire pour le salut, parce que s'ils sont de bonne foi avec leur fausse religion, Dieu n'étant pas méchant, ils vont se sauver. Alors on a du mal à comprendre que des missionnaires aient risqué leur vie sur des générations dans l'espoir de baptiser un seul qui se convertirait, ou d'en confesser un seul, si ce qu'on vient de dire précédemment était vrai. Et non, parce que sans le secours des sacrements et donc de la grâce sacramentelle, il est quand même beaucoup plus difficile de faire son salut. Alors ça ne veut pas dire qu'encore une fois, celui qui est dans la pampa, qui n'a jamais vu un missionnaire et qui n'a jamais été de mauvaise foi et qui a accepté en plus la grâce intérieure soit sauvé. Ça, c'est tout à fait possible, il faut le souhaiter. Et encore une fois, tous, même ceux qui ne connaissent pas visiblement l'Église, ont cette grâce-là. Mais enfin, la fidélité à cette grâce, elle est nettement compromise sans les secours de l'Église. D'où le zèle des missionnaires à aller partout évangéliser. Pas parce qu'ils se pensaient meilleurs, hein, attention. On a bien compris, mais parce qu'ils se pensaient justement redevables de cet amour de choix dont ils avaient été l'objet par leur baptême et leur vocation, et ainsi ils se devaient vis-à-vis de Dieu et bien de communiquer d'être l'instrument de ces canaux de la grâce que sont les sacrements. Voilà. Ça choque personne, ça peut choquer, mais il faut me dire aussi.
Pour l'instant, pas encore.
Pourquoi dites-vous par la grâce de Dieu. Je dis par la grâce de Dieu parce que être chrétien est un don tout gratuit de Dieu que nous n'avons pu mériter. Grâce de Dieu est gratis, c'est gratuit. Voilà, le problème de la grâce, c'est d'être gratuit. C'est pour ça que la simonie a toujours été condamnée par l'Église, le fait de payer les sacrements. Il n'y a rien de pire quand on vous dit « Ah, mon père, je vous paye combien pour la messe ?» Alors, vous voyez, soit je dis rien, soit je dis un milliard. Mais vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de coût, vous n'avez pas payé une messe. On demande éventuellement des honoraires à l'occasion d'un acte cultuel pour compenser la spoliation par la République du clergé et lui permettre de vivre. Mais en soi, on ne paye pas la messe. C'est à l'occasion d'un acte du culte posé par un prêtre qui a aussi besoin de vivre, et bien que l'Église recommande une offrande. Mais c'est tout. Ce n'est pas du tout une condition de la réception du sacrement. Et c'est encore moins le prix du sacrement. Souvenez-vous, Simon le magicien, hein, qui était puni sévèrement. D'ailleurs, le mot simonie, hein, c'est un des disciples des apôtres qui voulait acheter à Pierre l'épiscopat. C'est ce que tu peux, à Saint-Pierre, l'épiscopat. Peux-tu m'imposer les mains pour que je devienne évêque, quoi. Bon, ben, il était rabroué et puis il était puni. Voilà. D'où le mot simonie, Simon le magicien. Et voilà, il s'est dit, bah, avoir des pouvoirs, ça peut être sympa. Voilà, donc je dis par la grâce de Dieu, parce qu'être chrétien est un don tout gratuit de Dieu, que nous n'avons pu mériter. Oui, nous ne méritons pas le principe du mérite. Nous ne méritons pas le principe du mérite. On dit qu'on mérite le ciel, c'est vrai. On mérite le ciel dans la mesure où on coopère à la grâce qui nous est donnée pour faire des actions qui soient surnaturelles et qui nous ordonnent au ciel. Mais vous comprenez bien que, antérieurement à l'action qu'on va poser, il y a la grâce qui est donnée. Vous voyez, le mérite, c'est quoi? C'est un droit à avoir une récompense. Quel droit j'ai vis-à-vis de Dieu qui m'a tout donné? En justice, j'ai aucun droit. Je n'ai rien à exiger. Donc le droit que j'ai d'aller au ciel, il est que dans la mesure où les actions que j'ai posées, c'est moi qui les ai posées par la grâce que Dieu m'a donnée, pour que par cette grâce, ce soit en fait Jésus qui, à travers moi, agisse, donnant une valeur d'éternité à mon action. C'est la différence entre celui qui donne de la nourriture aux pauvres par pure solidarité, philanthropie, compassion, ce qui est déjà bien, mais d'avec celui qui a l'état de grâce et qui va faire un acte de charité en donnant la même chose d'ailleurs. Mais dans un cas, il fait une action humaine qui est bonne, hein, mais qui ne peut pas valoir, si vous voulez, une récompense éternelle, qui consiste en la participation à la vision même de ce qu'est Dieu. Il y a une disproportion entre cet acte d'aumône et puis la vision même de Dieu. En revanche, celui qui est animé de la grâce coopère à celle-ci en allant faire un acte de charité tel une aumône, eh bien lui, il mérite, par cette bonne action, animée de cette grâce, on reparlera de la grâce, hein, rassurez-vous, mais il mérite en tout cas, eh bien effectivement, le ciel. Parce qu'à travers lui, c'est Jésus qui agit, et c'est le sens de ce qu'il dit dans l'Évangile, hein, à qui vous aurez donné à manger, à qui vous aurez vêti, à qui vous aurez allé visiter, c'est à moi que vous l'auriez fait, que vous l'avez fait. Vous voyez ? Et donc le principe de tout mérite, le principe de tout droit à d'autres grâces ou à la récompense éternelle, vient de ce don premier que tu me fais de la grâce. Vous voyez ? La grâce sanctifiante. C'est vrai qu'il ne suffit pas d'être de bonne foi, d'être un chic type honnête homme pour que Dieu me doive la grâce. Bien sûr que si je suis un chic type, un honnête homme, eh bien je me dispose à pouvoir un jour recevoir cette grâce et à acquiescer plus facilement que si je suis pris dans plein de vices. Mais il n'empêche que le don de la grâce, c'est toujours l'initiative première de Dieu. On parlera de la grâce, hein, mais c'est pour bien comprendre ce que ça veut dire. Qu'on ne peut pas mériter le principe du mérite qui est la grâce elle-même. Quel est le vrai chrétien? Le vrai chrétien, c'est celui qui est baptisé. Donc c'est-à-dire qu'il y a des faux chrétiens. Donc qui usurpent le nom de chrétien. Et qui se font passer comme tels. Je vais fermer, hein, c'était parce que tout à l'heure, il était très très chaud. Non, mais je vais avoir froid aussi. Mais c'est parce qu'il était très chaud tout à l'heure. Il faut avoir des musiques. Donc, si... Si on parle de vrai chrétien, c'est qu'il y a des faux chrétiens. Et le vrai chrétien, c'est celui qui réalise, eh bien, l'idéal du Christ. Enfin, qui n'est pas un idéal, mais qui se conforme, pardon, eh bien, au Christ dans tout ce qu'il est. Or, on le redira, le Christ, il est indissociablement un roi, prêtre et prophète. Il a les trois. Le Christ, Christos, c'est loin du Seigneur. Hein. Et l'onction a été reçue dans l'Ancien Testament par ces trois catégories de personnes envoyées par Dieu. Prophète, roi et prêtre. Donc mission de gouverner, mission de parler au nom de Dieu, le prophète, c'est pas celui qui annonce d'abord des choses qui vont venir, c'est d'abord quelqu'un qui parle au nom de Dieu, et puis roi, celui qui guide le peuple, qui gouverne, et puis prêtre, parce que c'est celui justement qui va rétablir le culte véritable en s'offrant lui-même comme victime sainte à Dieu. Et donc le vrai chrétien, c'est celui qui suit le vrai Christ dans ces trois dimensions, dans ces trois missions. D'enseignement, de gouvernement et de sanctification. Et donc on comprend alors que le vrai chrétien, c'est celui qui est catholique. Car c'est celui qui croit et professe la doctrine annoncée par ce prophète Jésus, donc qui fait sienne toute la doctrine de Jésus, qui obéit au pasteur légitime, donc qui obéit à Jésus à travers la hiérarchie qu'il a lui-même en place et à travers son vicaire qui est le pape, et enfin, qui est sauvé par le sang de ce grand prêtre via les sacrements et spécialement donc le baptême qui réconcilie l'homme pécheur à Dieu lui-même. Donc, oui, le vrai chrétien, c'est celui qui est uni au Christ de par ces trois liens. Le lien de l'enseignement, de la foi, le lien du gouvernement, et donc de l'obéissance au Christ par la hiérarchie qu'il instituait, et puis le lien de l'amour surnaturel, de la sanctification, le lien cultuel, par la réception donc, des mêmes sacrements. Vous voyez ? Et donc les orthodoxes qui usurpent le nom de chrétiens, ils l'usurpent parce qu'eux, il leur manque quoi ? Le lien du gouvernement. La reconnaissance effective de la royauté du Christ. Aux protestants, il leur manque en plus le lien, en plus du lien du gouvernement, le lien cultuel, puisqu'ils n'ont pas le sacrifice de Jésus, ils n'ont qu'une commémoration. Ils ont le baptême, mais déconnectés de tous les autres sacrements. Donc vous comprenez bien qu'ils ne sont pas des vrais chrétiens. Donc si d'un point de vue sociologique, historique, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de malice à parler de chrétiens pour désigner protestants orthodoxes, pour dire qu'ils viennent à l'origine de la même famille fondée par le Christ, très bien. Mais n'acceptons pas un usage qui fasse relativiser la portée du nom de chrétien. Le chrétien, le vrai chrétien, c'est le catholique. Il n'y a pas d'autre. Les autres sont des usurpateurs, bien souvent aujourd'hui inconscients de leur usurpation, puisqu'ils sont eux-mêmes les héritiers de cette usurpation, mais c'est usurpé. Car ce qu'ils ont en propre de catholique, c'est ce qu'ils ont gardé qui n'était pas eux, mais que l'Église a mission de conserver. Ce qu'ils ont gardé en gardant le baptême pour les protestants, ou en gardant les sacrements pour les orthodoxes, ont gardé le lien de la hiérarchie, c'est quelque chose qu'ils ont, d'une certaine façon, pris à l'Église. Vous voyez, puisqu'ils sont coupés de l'Église. Donc ils ont pris une partie du patrimoine de l'Église. Mais
du coup, vous mettez les orthodoxes et les protestants sur le même plan.
Tout à fait. Par rapport à ce qu'on vient de dire, à savoir qu'ils ne réalisent pas, au sens vrai, la notion de chrétien. Après, on reparlera quand on verra la question de l'Église catholique pour désigner le rapport qu'il y a entre les différentes religions chrétienne au sens large, et puis religion non chrétienne, parce que je fais bien la différence entre un orthodoxe et un protestant sur... je fais bien la différence, voilà. Mais... Oui, mais là n'est pas la question. On peut avoir un regard sociologique, historique, disant il y a plus de choses qui nous rassemblent extérieurement d'avec les orthodoxes qui ont gardé une plus grande partie du patrimoine catholique qu'avec les protestants. De là à dire ils ont droit de porter le nom de chrétiens, ils sont des fidèles disciples du Christ, non. Mais après, effectivement, c'est une question délicate dont on reparlera vraiment en son temps. Voilà. C'est qu'une leçon introductive. Qu'est-ce que la doctrine chrétienne ? C'est la doctrine que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a enseignée pour nous montrer la voie du salut. Donc, on voit bien que le salut... Alors, le mot salut, ça peut faire bizarre. Un salut, ça salvifique, sauver, ce qui nous sauve. Donc, qui dit salut dit qu'il y a un danger de perdition. Qui dit danger de perdition dit qu'en fait, il y a... Le châtiment éternel dans lequel que tout homme mérite via Adam lorsqu'il arrive sur Terre. Nous sommes tous des sauvés. Nous sommes tous des sauvés de quoi ? De l'enfer. De l'enfer qui est mérité par Adam, qui, comme chef de l'humanité, a entraîné à sa suite tous ses descendants dans la révolte contre Dieu. Donc il y a un lien qui est fait entre ce salut, donc qui est la réconciliation avec Dieu, et en vue de la participation à sa propre vie ici-bas par la grâce et au ciel par la vision, puisque le salut a déjà commencé pour nous qui sommes baptisés. C'est pas que quelque chose qui est à venir. Et il y a un lien qui est fait entre ce salut et la doctrine. Et la doctrine, vous voyez ? C'est là où c'est très important de bien comprendre que sans faire de la religion chrétienne une gnose, la connaissance de Dieu, de ce qu'il nous dit de lui et de ce qu'il nous dit qu'il faut faire pour le suivre est absolument indispensable pour le salut. C'est pas le passe-temps de ceux qui ne sont pas invités le samedi soir. Non, c'est fondamental et c'est essentiel si on veut être sauvé. De connaître et de faire connaître à ceux qui nous sont confiés eh bien, la doctrine de notre Seigneur. Pourquoi ? Parce que au soir de notre vie, on sera jugé sur l'amour, l'amour de Dieu tel qu'il est, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cet amour présuppose la connaissance de ce qu'il est. Et sans Jésus, on ne peut pas dire grand-chose à part qu'il existe, que Dieu existe. Vaguement qu'il est créateur, à la rigueur. Mais à part ça, on ne va pas pouvoir aller, vous voyez, dire grand-chose. Donc on ne pourra pas rentrer dans une relation d'intimité avec Dieu. Voilà, et en tout cas, encore moins de l'aimer tel qu'il est. Et pas simplement donc comme créateur, mais tel qu'il est dans son intimité. L'intimité trinitaire dont on reparlera. Donc vous voyez, c'est très important de bien comprendre que la crise de l'Église que nous vivons, qui est une crise qui s'attaque d'abord à la foi, et qui s'attaquait ensuite à la liturgie et maintenant à la morale, c'est une crise qui met en péril la sainteté. C'est pas simplement une fracture dans l'Église entre une aile gauche et une aile droite. Non, l'Église, c'est pas un parti. C'est clairement, donc, du coup, la vertu de foi qui me fait adhérer à cette connaissance de la doctrine de Jésus qui est menacée. Or, cette vertu de foi présupposant et présupposée à l'exercice de charité sur lequel on sera jugé le soir de notre vie, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de sainteté possible sans la charité, donc sans la foi, et donc sans la connaissance des vérités. Alors chacun après a sa mesure et a ses capacités, hein, bien sûr, on n'est pas un enfant de connaître la même chose qu'un adulte, mais ce n'est pas possible donc, sans la connaissance de cette doctrine. Et donc il y a un devoir moral grave pour chacun d'entre nous que de continuer à se former sur la doctrine de notre Seigneur, et de la faire connaître spécialement à vos enfants. Hein. L'aquaponie est moins important que le cours de catéchisme. Et si le cours de catéchisme n'est pas possible, il faut dans ce cas le faire par soi-même. Et ça ne doit pas être quelque chose qui soit relayé à quand on pourra, quand on aura le temps. Outre le fait que c'est assez insultant dans l'ordre des priorités, par le peu de place qu'on donne à Dieu et par l'exemple qu'on donne aux enfants, c'est en plus très handicapant pour l'éclosion d'une vie spirituelle authentique. Mais bien sûr, on le dira, il ne faut pas déconnecter la connaissance de l'amour, bien sûr. Parce que là, la connaissance deviendra une occasion d'une culpabilité encore plus grande, dans la mesure où plus on connaît, plus on est censé aimer. Donc si on n'aime pas à mesure qu'on connaît, on est encore moins excusable de des amours de Dieu et du prochain. Donc on comprend bien que cette connaissance, elle ne doit pas être enorgueillissante, et elle-même, elle ne suffit pas à être sauvée. Elle est nécessaire, mais pas suffisante.
Excusez-moi, vous avez dit tout à l'heure, le salut est déjà commencé pour nous. Est-ce que vous pouvez expliquer ?
Alors, on le reverra avec la grâce, mais il est déjà commencé pour nous dans la mesure où nous, qui sommes baptisés, nous vivons déjà de cette amitié avec Dieu qui est le fruit de sa mort sur la croix pour nous et de sa résurrection qui l'a rendu vainqueur de la mort éternelle. Et ce n'était pas lui qui était mort éternellement, puisque lui, il a toujours été en vie, étant donné qu'il est saint, qu'il est Dieu. Mais il nous a acquis, il nous fait bénéficier dès maintenant du premier fruit de sa mort, à savoir la grâce sanctifiante qu'on a reçue par le baptême. Et donc on est en état d'amitié avec, qu'on est déjà sauvé. Et c'est ça le jour du chrétien, c'est qu'il se sait déjà, s'il a percé votre état de grâce ou s'il l'a retrouvé par une autre confession, il sait qu'il est sauvé. Qu'il est sauvé. Ce qu'il ne sait pas, c'est s'il va persévérer. C'est la raison pour laquelle il espère dans la bonté de Dieu pour le faire persévérer jusqu'à la mort. C'est ça qui fait la paix des moines, vous voyez, c'est ça qui fait la paix des religieux, c'est qu'ils ont la conscience, plus que nous parce qu'ils ne sont pas dans le monde, de ce cadeau extraordinaire que Dieu leur a fait de son amour, au point que Dieu habite dans celui qui a la grâce et qui le rend ami, voilà, qui le rend ami réconcilié avec lui. Alors oui, Jeanne, quand elle dit, quand on lui demande ce que vous êtes sainte ou ce que vous êtes un tas de grâce, elle dit, si je ne suis pas, que Dieu m'y mette, si je suis, que Dieu m'y garde, bon. On comprenait que si elle répondait « oui, j'y suis », elle est passée pour orgueilleuse, et si elle disait « j'y suis pas », elle est passée pour une pécheresse. Donc dans les deux cas, voilà, elle a répondu quelque chose qui manifeste bien son humilité, la gratuité de la grâce, manifestant bien qu'elle ne se considère pas meilleure que les autres en tant que telle. Mais l'assurance avec laquelle elle répond ça spontanément manifeste bien justement qu'elle ne craint pas les représailles d'une telle réponse parce qu'elle est avec Dieu, tout simplement. Après, on ne voit pas son âme, donc c'est vrai qu'il y a des signes qui manifestent qu'on est à de grâce, ou de la conscience qu'on a d'avoir bien accuser les péchés qu'il fallait accuser. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas notre âme directement. Donc, on n'en a pas d'évidence. La grâce, c'est pas d'abord quelque chose d'ordre du sensible, hein, comme la foi d'ailleurs. Donc, voilà. Pour nous montrer la voie du salut, c'est pas les voies du salut. Jésus n'a pas proposé plusieurs voies, il a proposé une voie de salut. Hein, c'est singulier. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Hein. Je sais pas, je suis les chemins, les vérités, la vie, ou je suis un des chemins, une des vérités et une des vies. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas dissipe. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un et haïra l'autre. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du malin. Vous voyez, Christ est très clair, hein, il y a un choix. Qui est binaire, oui, c'est sûr que ça manque peut-être de nuances aux yeux des contemporains qui aiment le consensus, mais c'est la vérité subsistante, notre Seigneur. Donc il n'y a pas de parcelle de vérité qui compléterait ce qu'il a dit. Non, il est la vérité. Est-il nécessaire d'apprendre, c'est de connaître, mais est-ce qu'il est nécessaire d'apprendre la doctrine enseignée par Jésus? Oui, il est nécessaire d'apprendre la doctrine enseignée par Jésus, et ceux qui négligent de le faire pêchent gravement. Le catéchisme, c'est pas Saint-Pilice, hein, c'est pas le catéchisme d'un janséniste, hein, pas Saint-Pilice. Donc il est nécessaire non seulement de connaître, mais d'apprendre la doctrine enseignée par Jésus. Alors, pas forcément pour une poésie, comme une poésie quand on est adulte, mais on doit faire en sorte, pour nourrir notre amour de Dieu, et pour que notre agir soit en conformité avec celui-ci, on doit faire en sorte d'avoir à présent les grandes vérités de notre foi. Et c'est tout le génie de l'Église, par les prières qu'elle a très vite mises en place, eh bien, de faire retenir très facilement l'essentiel de ce qu'il faut savoir, à commencer par le « Je crois en Dieu ». Appeler symbole, parce que justement, ce sera la façon dont on reconnaîtra les premiers chrétiens des autres. Vous voyez l'acte de foi qu'on dit à chaque... Enfin, qu'on devrait dire chaque jour. C'est un magnifique résumé de théologie dogmatique sur ce qu'est la foi. C'est vraiment, c'est impeccable. Il n'y a pas un mot de trop. Tout est dit. Le motif, l'objet de la foi, tout est dit. On reverra, mais c'est... Voilà. Je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église. Et l'objet, c'est des vérités, c'est pas un ressenti. Et le motif, c'est parce que dans la vérité même, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Donc c'est pas parce que je le sens bien, ou parce que ça me fait voix de poète, ou parce que la majorité pense ça. Non, parce que Dieu est vérace. Donc il ne peut pas se tromper, parce que si Dieu est Dieu, il n'y a pas l'ombre possible d'un mensonge ou d'une erreur. Donc je crois Dieu à cause même de Dieu, en raison même de ce qu'est Dieu. Les parents... Et donc, oui, donc, nous devons nous intéresser suffisamment pour retenir les vérités essentielles, ne serait-ce qu'en connaissant les prières fondamentales, le « Je crois en Dieu », l'homme de foi, l'acte d'espérance, l'acte de charité, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, qu'on fait. Et les parents ont aussi donc, le devoir de vérifier ce que leurs enfants sachent aussi leurs leçons de catéchisme, autrement dit. Alors, il faut avoir l'intelligence quand ils grandissent, d'être moins exigeant sur le par cœur et être plus exigeant sur la compréhension qu'ils ont de ce qu'ils apprennent. Mais il est important quand même que ça ne soit pas pris pour une option entre celle de l'aquaponie et de l'art plastique. Non, c'est tout aussi important, même plus important, que la leçon de mathématiques. Voilà. Et d'où l'importance, vous voyez, des catéchistes classiques, qu'aujourd'hui on appelle traditionnels, mais qui avant étaient catholiques, quoi, enfin, voilà, de questions et de réponses. Parce que tout savoir, quel qu'il soit, ne se devine pas d'abord, mais il se reçoit. Pour élaborer un savoir, pour être savant, il faut d'abord... Et être chercheur, il faut d'abord avoir reçu. Hein, donc on ne va pas faire deviner un savoir. On le reçoit, on le transmet. Et quand c'est un savoir qui concerne des vérités qui dépassent la raison, un savoir surnaturel, la révélation, ben on peut encore moins tenter de le faire deviner à l'enfant. Et c'est se prendre pour Dieu que de penser pouvoir mieux dire ce qu'il a dit sur lui. Voyez. Ou se prendre pour mieux que l'Église, c'est l'Esprit-Saint qui a formulé clairement les vérités qu'il nous a enseignées, en changeant en changeant systématiquement les formulations au prétexte qu'elles sont obscurantistes ou trop compliquées. Alors ça ne veut pas dire que chaque virgule du catéchisme est inchangeable et chaque mot est inchangeable, mais ça veut dire qu'il y a des termes qui sont vraiment liés au dogme, c'est-à-dire la formulation garantie par l'Église de la foi et garantie infailliblement, qu'on ne peut pas changer, parce qu'on va changer la vérité. Je vais prendre deux exemples, le mot transsubstantiation. Il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas trouver de synonyme. C'est trans-changement, substance, telle qu'est définie par Aristote et par le Concile de Trente. c'est ce à quoi il appartient d'avoir l'être par soi, ce qui est en soi. Voilà. L'accident, c'est ce qui advient à quelque chose qui existe, voyez, qui dépend dans l'être d'autre chose que de lui-même. Donc ça, vous ne pouvez pas changer. Si vous changez le mot transsubstantiation et vous parlez de simplement de symbole, de transsignification, vous changez la foi. Le mot union hypostatique, pour dire l'union dans la personne, dans l'hypostase, dans la personne de Jésus, de deux natures. Il est vraiment homme, il est vraiment Dieu, de nature humaine et divine, en une seule personne, qu'on appelle union hypostatique. Vous ne pouvez pas changer la terminologie. Vous allez dire autre chose. Vous allez dire qu'il a une apparence d'homme, vous allez dire qu'il a un corps humain. Alors du coup, l'âme, on en fait quoi? Parce que c'est pas un humain s'il n'a qu'un corps. C'est un cadavre animé, c'est quand même très différent. Bon. Vous voyez le mot Trinité, vous n'allez pas commencer à le changer. Ça, c'est... Bon. Donc on ne peut pas changer les mots. Alors un enfant, bien sûr, qui ne va pas comprendre tout de suite toute la portée du terme. Mais le fait de le retenir lui permettra, de l'avoir appris, lui permettra de fixer la foi de l'Église et d'en avoir une intelligence progressivement de plus en plus lumineuse. Et ça l'évitera de confondre ce terme-là avec des termes profanes qui, très souvent, sont liés avec la réalité créée, naturelle, et qui est impropre à traduire le mystère tel que Dieu l'a révélé.
Mais de leur apprendre tôt, justement, ces mots-là, est-ce que c'est pas justement leur faire comprendre l'importance des mystères, enfin...
Tout à fait. D'accepter que ça leur dépassera toujours.
Autrefois, c'est ma mère qui disait ça, elle était née en 35, donc notre génération, elle disait qu'autrefois, les enfants devaient apprendre tous les mystères avant 6 ans. Parce qu'après, ils raisonnaient. Et qu'il n'y avait plus moyen de leur faire comprendre, enfin de leur faire accepter les mystères en toute confiance.
Je crois qu'elle a tout à fait raison.
C'est pas elle qui l'a inventé, c'est ce qu'elle nous a dit.
Mais elle a tout à fait raison. Alors ça ne veut pas dire que c'était.
Parce qu'après, ils raisonnaient. Alors, je pense que si tu veux, elle était à fond. Très bien. Mais. Effectivement, moi j'ai gardé ça.
Et le mystère de la rédemption, vous n'allez pas changer le mot rédemption? Non, c'est vrai.
Ouais, non, mais je suis d'accord.
Alors il faut expliquer à l'enfant. Rédemption, c'est-à-dire qu'il est racheté, tu vois, là, si tu es enfermé et que le méchant il me demande 200 euros pour te délivrer, je donne 200 euros, donc je te rachète. Mais faut bien sûr expliquer, il faut essayer de. Mais s'il ne comprend pas tout et qu'il oublie avant même qu'il se finisse, c'est pas grave. Mais il sait que derrière il y a une situation bien précise qui concerne Jésus sur la croix. Bon, c'est l'essentiel pour l'instant à son âge. Et le mot incarnation, ils ont beaucoup de mal avec ce mot-là parfois. Bon, mais alors dire, incarné, c'est la chair, c'est nous. Hein, voilà. Incarnation, c'est dans la chair, donc il vient, il se fait homme, il prend notre chair. Bon, il va quand même le saisir au moins confusément. Voilà. Donc effectivement, c'est une très bonne idée de profiter de leur pureté d'âme et de leur simplicité enfantine pour leur dire déjà les grandes vérités que Jésus a révélées et qui a été fixées par un langage clair par l'Église, tels les mots qu'on vient de dire. Les parents, et voyez, quand on change, et on le voit aujourd'hui, c'est symptomatique, tant dans les sciences profanes que dans les sciences sacrées, et spécialement dans les catéchismes, quand on change dans la théologie, quand on change le langage au prétexte de rendre le contenu plus accessible, très souvent on change le contenu. Changer les mots, vous changez la pensée. Vous voyez, le délit d'opinion, pour ce qui est du monde profane, commence toujours par un délit de langage. Et après on accepte qu'à tel langage soit associé telle chose, et comme on a récusé tel langage, on a accepté. Mais c'est pervers, parce que précisément, il y a un lien entre la pensée et la langue, et d'une part, la langue exprime la pensée, et la langue me permet de préciser et d'affiner ma pensée. Vous voyez, une réciprocité des codes. Donc si je change le langage, fixé par la sagesse, soit de la civilisation pour ce qui est du monde profane, soit par l'Église assise de l'Esprit-Saint pour l'avoir fait, à travers notamment ces grands conciles qui ont défini des dogmes, non pas des nouvelles vérités, mais des formulations claires et précises des vérités qui ont toujours été crues, eh bien je vais changer, en fait, sans le dire, la vérité elle-même. Et donc je vais changer la foi. De qui devons-nous recevoir les parents et les maîtres sont-ils obligés d'envoyer au catéchisme leurs enfants et ceux qui dépendent d'eux? Eh bien oui, ils sont obligés d'assurer à leurs enfants et à ceux qui dépendent d'eux l'enseignement de la doctrine chrétienne, et ils se rendent coupables devant Dieu s'ils ne s'acquittent pas de ce devoir. Donc s'ils ne peuvent pas, voyez, les faire enseigner, ils doivent les enseigner eux-mêmes. Mais c'est un devoir grave, parce que c'est leur salut qui est en jeu. Et vous voyez, la responsabilité des hommes d'Église qui ont autorité pour imposer notamment au moins une heure de doctrine chrétienne dans toutes les classes des écoles sous contrat, eh bien, est colossale. Est colossale parce que c'est pas un choix, c'est pas une option. C'est un devoir qu'un pasteur a que de transmettre la foi à ses ouailles et de transmettre la foi aux écoles qu'il dirige, dont il assure l'aumônerie. C'est aller enseigner les nations, puis après baptiser-les, parce qu'on va pas baptiser de force. D'abord enseigner. Et c'est pas si vous avez le temps, si vous pensez que ça fera pas de vagues, si vous pensez que ça fera pas de jalousie, si vous pensez que ça entraînera pas la guerre, c'est non, c'est vous allez enseigner. Et ils étaient tous païens, donc ça pouvait pas bien se passer de toute façon. Et c'est pour ça qu'ils sont tous morts martyrs. C'est un ordre. Hein. Et vous voyez la vocation, enfin la raison, c'est ce qui distingue immédiatement le prêtre du religieux, c'est pas d'avoir l'ordination, puisque les moines peuvent être prêtres, c'est cette mission d'enseignement. Le prêtre, on dit souvent, c'est celui qui représente Jésus dans sa vie publique. C'est 3 ans où il a enseigné. L'action du prêtre prolonge justement cet enseignement du Christ. Vous voyez ? Donc un prêtre qui n'aime pas ou qui ne veut pas enseigner, c'est un prêtre qui n'est pas à sa place. Soit parce qu'il n'a pas les aptitudes naturelles pour le faire, soit parce qu'il n'a pas compris ce qu'est le prêtre, soit parce qu'il est tout simplement fait pour être religieux. Et c'est très bien, il en faut. Les religieux cloîtrés, il priera pour justement ces prêtres qui enseignent et pour les élèves de ces prêtres. Mais vous voyez ? La mission d'enseignement, je ne vois pas comment on peut concevoir le sacerdoce sans l'oublier, la mission d'enseignement. Alors, je ne suis pas en train de réduire le prêtre à un rôle d'un pasteur qui fait des one-man shows en chair et qui... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le prêtre, essentiellement, il se définit dans son ordination à rendre présent le sacrifice du Christ. Mais pour que ce sacrifice soit profitable aux hommes de notre temps, il faut leur donner la grâce... Car c'est par la grâce qu'ils peuvent s'associer à l'action du Christ à la messe. Et pour leur donner la grâce, il faut qu'ils aient la foi. Et pour qu'ils aient la foi, il faut qu'ils aient des prédicateurs. Et c'est ce que dit saint Paul. Fides exauditu, la foi devient de la parole. S'il n'y a personne pour annoncer, qui leur annoncera? Il le dit explicitement. La foi ne peut pas s'inventer, donc elle se reçoit. Pour qu'elle soit reçue, il faut qu'il y ait des transmetteurs. Et comme l'ordre naturel n'est pas détruit par le Rédempteur, mais au contraire assumé et élevé, l'ordre naturel qui commande aux parents de vouloir le meilleur pour leurs enfants et de leur transmettre le savoir nécessaire à leur bonheur, et que ce bonheur il n'est pas que terrestre, il revient d'abord aux parents de s'assurer de la transmission de la foi. Et en ce sens, le rôle des prêtres n'est que subsidiaire. Hein ? Les prêtres n'ont pas un droit naturel à directement éduquer les enfants. En revanche, ils ont un droit à enseigner leurs fidèles. Et à enseigner, du coup... les parents et les enfants de leurs parents avec leur accord. Voilà. De qui devons-nous recevoir et apprendre à être une chrétienne ? Nous devons recevoir et apprendre à être une chrétienne de la Sainte Église catholique. Voilà. Pourquoi ? Parce que celle-ci, et uniquement celle-ci, a reçu mandat de Dieu lui-même qui s'est révélé pour transmettre fidèlement cette révélation avec autorité au nom du Christ lui-même. Et elle seule est assistée de l'Esprit-Saint pour ne pas dévier dans la transmission de cette doctrine, du moins quand elle parle infailliblement. Et c'est ça qui fonde d'ailleurs l'unité de l'Église, l'unité de la foi, cette assistance promise. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui vous écoute, m'écoute. Comment sommes-nous certains que la doctrine chrétienne que nous recevons de la Sainte Église est la vraie ? Ça, c'est une question... effectivement, est primordial et qu'on nous aurait déjà posé il y a 3 quarts d'heure si on était sur un plateau. Vous êtes bien arrogant, vous, à penser que non seulement il n'y a qu'un vrai christianisme, mais qu'en plus, il n'y a qu'une seule vérité. Alors, nous sommes certains que la doctrine chrétienne que nous recevons de l'Église catholique est la vraie, c'est-à-dire qu'elle correspond à ce qui est, non pas à ce que je pense. Hein, c'est la différence entre la véracité et la sincérité. Hein. Donc, nous sommes certains que la doctrine chrétienne que nous recevons de l'Église catholique est la vraie, parce que Jésus, auteur divin de cette doctrine, l'a confiée par ses apôtres à l'Église qu'il fondait et constituée maîtresse infaillible de tous les hommes, lui promettant son assistance divine jusqu'à la fin des siècles. Donc vous voyez, comme on a assuré que l'Église est la vraie, parce qu'elle agit non pas en son nom propre, mais au nom du Christ, qui lui a donné cette doctrine, soit directement, soit par l'intermédiaire des apôtres qu'il a assisté particulièrement, et qu'enfin elle a la promesse jusqu'à la fin du monde, eh bien... de transmettre fidèlement cette révélation, du moins quand elle parle infailliblement. Donc elle a les moyens de sa mission donnée par le Christ, à savoir cette assistance spéciale qui est celle du Saint-Esprit au corps enseignant de l'Église, à savoir les évêques unis au pape. Alors vous me direz, oui, mais ça suppose de croire que l'Église, elle est divine. Alors on peut montrer historiquement qu'elle est fondée par un homme qui a fait des choses extraordinaires et qui est mort et s'est ressuscité lui-même. Bon, voilà, et on peut montrer donc après la quantité historique entre cette société organisée déjà du temps du Christ et l'Église catholique d'aujourd'hui. Après, bien sûr, il faudrait montrer de façon plus immédiate, mais aujourd'hui plus difficile, bah, que l'Église est une société qui, d'un point de vue extérieur, présente des caractéristiques d'aucune autre. Il manifeste bien qu'elle ne peut pas être uniquement l'œuvre d'hommes qui ont voulu assouvir un besoin de pouvoir ou d'argent. Voilà. Une grande multinationale répartie sur 6 continents, qui a plus de 2000 ans d'histoire, aujourd'hui 1 milliard et des poussières de croyants, et qui est structurée depuis le début autour des mêmes vérités essentielles et des mêmes façons de fonctionner, c'est quelque chose qui relève quand même d'une prouesse.
Vous voyez ? Factuellement.
Factuellement. Parce que saint Augustin, hein, si Jésus et les apôtres n'ont fait aucun miracle, alors l'existence de l'Église est un plus grand miracle que tous ceux qui disent avoir fait. Vous voyez ? Parce qu'il faut être vraiment frappadingue pour 2000 ans après croire en une supercherie. Encore 10 minutes parce qu'on a commencé en retard, mais je tiendrai les horaires. Parce que hier, j'étais au foyer, j'ai pas tenu les horaires. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde ce soir, je ne sais pas. Mais voilà, bon. Y a-t-il d'autres preuves de la vérité de la doctrine chrétienne ? La vérité de la doctrine chrétienne est démontrée aussi par la sainteté imminente de tant d'hommes qui l'ont professée, qui la professent, par la force héroïque des martyrs, par la rapidité merveilleuse de sa diffusion dans le monde et par sa pleine conservation à travers tant de siècles et de luttes variées et continuelles. Bon, donc là, ça revient sur ce que je disais, à savoir cette unité de l'Église qui perdure malgré son extension historique et spatiale, en ajoutant que, eh bien, cette doctrine dépasse les hommes qui la professent, et que quand même les hommes qui la professent sont pécheurs, ils n'ont pas changé la doctrine pour justifier leur agir. Autrement dit, il n'y a pas plus grande honnêteté de la part de quelqu'un de dire « c'est ça qu'il faut faire, même si j'arrive pas à le faire ». Vous voyez, je ne sais pas comment dire. L'hypocrisie vient quand je me sers de ce que je dis pour faire le contraire volontairement. Ça, c'est autre chose. Mais vous voyez, les enfants font bien sûr avec des parents qui utilisent leur autorité abusivement de façon à faire en sorte qu'ils ne font surtout pas ce qu'ils disent. Des parents qui, pris d'un moment de faiblesse, se mettent un peu en colère ou bâclent la prière du soir. Bon, et bien, les enfants font bien différence entre l'idéal qu'ont toujours recommandé papa-maman et auquel ils ont essayé de se tendre, et puis l'hypocrisie sociale qui consistera à faire semblant alors qu'ils n'y ont jamais cru. Oui. C'est un peu ça, cette idée. Quand on dit qu'ils professent quelque chose qui les dépasse et qui les conduit justement à une sainteté qui dépasse le... Une sainteté, c'est-à-dire une rectitude qui dépasse ce qu'un mortel peut faire sans la grâce. Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est très difficile à le montrer de façon tangible, dans la mesure où, même s'il y a beaucoup aujourd'hui de saints prêtres, de saintes mères de famille, de saints moines, pourquoi pas de saints évêques, il est clair que la sainteté est quand même moins visible avec tous les scandales qu'il y a eu dans l'Église et avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est un argument à manier avec délicatesse. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que tous ceux qui commettent des péchés, moi le premier, on ne le commet pas au nom de notre sacerdoce ou au nom de la doctrine qu'on enseigne. Mais malgré cette doctrine, malgré la mission qu'on a reçue, malgré la grâce qu'on reçoit. Donc, contrairement à ce que disait quelqu'un de célèbre, il n'y a pas de violence catholique. Il y a des violences commises par des catholiques, mais pas en vertu de leur religion catholique. Contrairement à d'autres religions où la violence s'appuie sur des textes qui la demandent. Voyez, c'est tout le thème de l'Église sainte, mais non sans pécheur. Il n'y a pas d'hypocrisie à dire « Ah, bah, les saints, quand ça vous arrange, et puis autrement, c'est des pécheurs, et ils ne sont plus de l'Église quand ça ne vous arrange pas. » Ben non, il n'y a pas d'hypocrisie, parce que, encore une fois, l'Église est sainte dans sa doctrine, dans les moyens qu'elle donne pour mettre en œuvre sa doctrine, la grâce, dans les commandements, mais pas dans ces hommes qui la composent, qui sont appelés, justement, à vivre de cette sainteté, à être irrigués par celle-ci, mais qui gardent leur liberté. Il ne suffit pas d'être baptisé pour être automatiquement saint, enfin, du moins après l'âge de raison, cette liberté. Voilà. Je termine juste donc ce chapitre préliminaire, comme ça la prochaine fois on commencera vraiment le credo. Quelles sont les parties principales et les plus nécessaires de la doctrine chrétienne ? Bah, c'est donc le credo. Vous pouvez mettre le Pater Noster avec, parce que le Pater Noster, c'est cette seule prière, vous savez, qui est instituée directement par le Christ, hein, et qui contient tout ce que nous avons besoin pour aller au ciel. Les commandements et les sacrements. Donc, credo, commandement, sacrement, on retrouve le triptyque dont je vous parlais, je m'y étends pas plus. Et cela appartient à la révélation, vous voyez. Hein, la révélation ne se réduit pas à ce qu'il faut croire ou ce qu'il faut faire. Il y a tout cela. Et les sacrements appartiennent à la révélation. Vous voyez, la révélation, hein, je rappelle, elle est constituée de l'Écriture sainte et de la tradition. Hein, et c'est ça qui est clou à la mort du nerf à poutre. Vous voyez, et qui contient à la fois ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire et comment le faire. Vous voyez, et les liturgiques et les sacrements. Et les, vous voyez. Que nous enseigne le credo? Donc les credos nous enseignent les principaux articles de notre foi. Alors, par article, on peut entendre, si vous voulez, vérité essentielle duquel découlent les autres vérités d'un ordre, d'un point de vue logique. Alors on le dira, il n'y a pas de petite vérité, de grande vérité de foi. Toutes les vérités de foi, elles sont grandes, parce que si j'en nie volontairement une, eh bien je rejette la foi. Parce que précisément, le motif de ma foi, de ma confiance en Dieu, c'est pas ma petite jugeote personnelle, c'est la véracité de Dieu. Dieu ne peut pas me tromper, donc je crois en tout. Si je commence à faire le tri, ça veut dire que le critère de mon adhésion n'est plus la confiance que je fais en Dieu. Donc c'est plus la foi. Donc il n'y a pas de petite vérité de foi. Je rejette l'infaillibilité pontificale, consciemment, hein, je sais que c'est un dogme, je rejette en disant « ça c'est pas possible avec tout ce qui se passe, c'est pas possible, bon. » Et bien, dans les faits produits, c'est comme si je rejette la Trinité. C'est vrai que j'ai perdu la vertu de foi. Quand même la Trinité, dans la connaissance, est plus importante que l'infaillibilité sous le rapport de la connaissance que ça me donne de Dieu, bien sûr. Mais il n'empêche que du point de vue de ma vie de foi, si je rejette une seule des vérités, ça suffit pour perdre la foi. C'est pour ça que, vous voyez, on ne peut pas jouer avec la foi, on ne peut pas faire de la diplomatie avec la foi. Vous voyez, aujourd'hui, de part et d'autre, hein, et ça vaut dans tous les courants, hein, il y a une tentation d'acheter la paix, soit ecclésiastique, soit sociale, soit mondaine, en taisant certaines vérités de foi, en s'arrangeant sur des formules ambiguës, pour mettre tout le monde d'accord. Mais on ne peut pas faire ça, en fait. Hein, parce qu'il n'y a pas de petite vérité de foi qu'on peut mettre sous le boisseau pour faire plaisir. Et si je le fais consciemment alors que je suis dans le devoir de professer ma foi, ce qui est quand même assez souvent, eh bien, je peux faire un péché grave, objectivement, par le scandale que je cause. Combien de personnes sont scandalisées, mais parce que j'incite la personne, justement, à perdre la foi, en minimisant l'une ou l'autre des vérités. Alors, si, bien sûr, la foi, c'est un truc d'intello pour se faire plaisir le samedi soir, on peut minimiser la foi et ne pas en parler en dehors de ce cercle. Si, en revanche, on comprend que la foi, elle est intimement liée à la charité qui est la résumée de la sainteté, eh bien, je ne peux pas concevoir ma relation à Dieu et la sainteté, donc la vie spirituelle, sans cette foi, et sans cette connaissance de la foi. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas du tout, ce qu'on vit n'est pas anodin, c'est pas simplement une querelle idéologique, c'est une querelle spirituelle, où les forces des ténèbres, depuis le début de l'histoire de l'Église, s'acharnent à la détruire, et à la détruire d'abord de l'intérieur, car les pires crises de l'Église qui ont divisé l'Église, c'est pas la persécution de l'empereur, ça a plutôt soudé l'Église. C'est les premières hérésies christologiques et trinitaires. On pourrait dire, mais la Trinité, qu'est-ce que les gens, ça leur change concrètement, ils vont à la messe, ils font leur Pâques. Oui, mais ça atteint directement la connaissance même de ce qu'est Dieu. Donc l'amour qu'on lui doit. Que nous enseigne le Pater Noster? Donc le Christ enseigne les principaux articles, donc les principales vérités, rappelle les principales vérités duquel découlent les autres vérités. Donc vous avez bien compris, toutes les vérités sont importantes dans ma vie de foi, mais il y en a d'un point de vue logique qui sont premières par rapport aux autres. Que nous enseigne le Pater Noster, tout ce que nous devons espérer donc, de Dieu, et tout ce que nous voulons demander, donc espérer le ciel, mais les moyens qui y conduisent, qui dépassent nos propres forces, ce pain quotidien qu'est l'Eucharistie, qu'est les sacrements, et puis la connaissance de sa volonté, vous voyez. Bon. Que nous enseigne les commandements, tout ce que nous devons faire pour plaire à Dieu, et tout cela, ce sera le thème de l'évangile de demain, hein, se résume à aimer Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Donc vous voyez, tout ce que nous faisons pour plaire à Dieu, il ne dit pas les 10 commandements. Je peux très bien ne pas tuer l'innocent, ne pas piquer la femme de mon voisin, ne pas mentir, être un chic type et ne pas aimer Dieu. Ou être un type mauvais et pharisien, respectant extrêmement les commandements, mais ne pas aimer Dieu. Bien sûr que si j'aime Dieu, je vais respecter ce qu'il me demande, à commencer par la loi naturelle, rappelée par les commandements. Mais ce n'est pas le respect scrupuleux de la loi qui me donne l'amour de Dieu. Et c'est tout le reproche que fait tout au long de l'évangile le Christ aux pharisiens. Ça, c'est très important parce que, vous voyez, on a instrumentalisé le fait qu'il y avait des catholiques sociaux qui extérieurement appliquaient les commandements et puis qui étaient insupportables dans la vie de tous les jours pour dire « Regardez, on s'en fout des commandements, nous, vous êtes sincères et gentils avec votre entourage, tout va bien. » Mais c'est faux. Les deux sont faux. Et c'est pour ça que le Christ, avec pas l'auteur de vie qu'on lui connaît, mais avec la sagesse divine dont il est empli, et nous dit, voilà, il n'y a qu'un seul commandement. Si tu aimes Dieu par-dessus ton prochain comme toi, bien sûr que tu respecteras les commandements, mais tu feras bien plus. Et le bien plus, c'est les béatitudes. Et celui qui est le modèle des béatitudes, c'est le Christ. On peut remplacer à chaque fois hein, le heureux par Jésus. Donc ça va bien au-delà d'un respect de commandement. Bien au-delà. Vous voyez, en soi, on pourrait très bien admettre qu'on respecte les commandements par orgueil et honneur déplacé, et absolument pas par amour de Dieu. Parce que même l'adoration peut ne pas être un acte d'amour de Dieu. On peut la travestir. En disant, bah oui, je ne suis pas Dieu, c'est quand même bien dommage, donc je vais le reconnaître comme qu'il est Dieu, donc je me soumets. C'est pas un acte d'amour de Dieu, ça. Que nous enseigne, et c'est la dernière question, que nous enseigne la doctrine des sacrements? La doctrine des sacrements nous fait connaître la nature et le bon usage de ces moyens que Jésus-Christ a institués pour nous remettre les péchés, nous communiquer sa grâce, infuser et accroître en nous les vertus de foi et d'espérance et de charité. La doctrine des sacrements, ce qu'on verra en troisième partie, et bien ça va nous dire pourquoi les sacrements, à quoi chacun nous sert, s'il y en a sept, c'est pas pour donner sept fois la même chose, et nous montrer le rapport justement au salut qui a deux facettes. D'abord, j'écarte l'obstacle à mon union à Dieu, le péché. C'est la condition. Mais quand je suis baptisé, il n'y a pas que la remise des péchés. C'est simultané d'ailleurs chronologiquement, mais il y a un ordre logique, c'est que les péchés me sont enlevés en même temps que je reçois la grâce de Dieu qui fait que Dieu désormais habite en mon âme. C'est concomitant d'un point de vue chronologique, mais il y a bien une antériorité de la remise des péchés sur la communication de l'amour de Dieu par la grâce. Voyez. Donc ça, on le verra plus en détail dans l'étude des sacrements. Et nous est donné avec cette grâce les vertus infuses. On avait vu l'année dernière, à la même date, c'était « Peut-on être catholique, être heureux ?» Et je vous avais dit que, eh bien, par religion catholique qui donne les moyens eh bien, d'aller au ciel, bien sûr que être catholique, c'est vouloir être heureux en Dieu, par Dieu. Par Dieu, c'est-à-dire en faisant en sorte que Dieu agisse à travers moi lorsque je fais une bonne action, par la médiation de la grâce, comme je vous disais tout à l'heure avec l'aumône. Et pour que ces grâces soient utilisées habituellement bien, il faut que j'ai les vertus qui vont ordonner mes facultés, mes capacités d'action au bien. Et pas simplement au bien naturel. Je peux être juste naturellement, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être juste. Oui, mais je vais recevoir en tant que chrétien la vertu infuse de justice pour que l'acte de justice que je pose en sanctionnant l'élève qui a objectivement fait le bazar soit un acte qui me mérite le ciel. Pas simplement un acte d'un directeur consciencieux. Pareil pour la prudence. Donc on a toutes les vertus infuses qui sont données au moment du baptême avec la grâce. Et qu'on perd la grâce, mais qui nous sont redonnées par la confession. Et parmi ces vertus infuses, il y a les vertus qui concernent l'agir, ce qu'il y a à faire, donc la prudence, la force, la tempérance, et puis il y a celles qui concernent directement Dieu. Les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Alors la charité, elle va animer toutes les vertus morales. Vous voyez ? La charité, elle va être à la racine de toutes les autres vertus. Car elle est cet amour de Dieu qui est au principe de toutes nos bonnes actions qui nous méritent le ciel. Mais cette charité, elle m'est donnée avec la grâce. Et elle est perdue avec la grâce. Et elle présuppose elle-même la foi et l'espérance. La foi, elle va perfectionner mon intelligence à la connaissance des vérités qui me dépassent et que je dois croire pour aller au ciel. Et la mise en pratique dans la volonté, eh bien, va pouvoir se faire par ces deux vertus d'espérance, me faisant désirer quelque chose que je n'ai pas encore, à savoir le ciel, et les moyens que j'ai déjà par l'Église pour y arriver. Et enfin, par la charité, cette volonté, elle va être élevée à un amour de Dieu qui dépasse tout amour naturel, l'amour de Dieu tel qu'il est Père-Fils Saint-Esprit, et l'amour du prochain par amour de Dieu, et pas simplement d'un Dieu créateur, mais d'un Dieu qui s'est fait homme par amour des hommes jusqu'à mourir pour chacun d'entre nous. Donc ces trois vertus, foi, espérance, charité, qui perfectionnent la foi, l'intelligence, la charité, l'espérance, la volonté, nous sont données en même temps que la grâce au baptême. Notez simplement que quand on perd la grâce, on perd la charité et les vertus infuses, sauf, bien sûr, la foi et l'espérance qui sont amputées de quelque chose, mais qui restent là, mais elles ne servent plus à rien tant qu'elles n'ont pas, justement, retrouvé leur finalité, à savoir la charité. Vous voyez, vertu de foi, si je ne renie pas volontairement une vérité que je sais enseignée par Jésus ou par son Église infailliblement, je la garde même si je fais un péché grave. Mais elle est amputée, elle est informe, c'est-à-dire qu'elle ne sert plus à rien et elle va s'abîmer sans la charité. Une connaissance pure ne débouche pas justement sur le salut. Voilà, j'en ai fini là. Quelques questions peut-être ?
Quelle est la responsabilité ? Vous avez parlé de la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants.
Oui.
Et la responsabilité des enfants vis-à-vis des parents. Ou des personnes comme une société fortement distincte.
Ah oui, oui.
Victimisée. On a que des gens.
Tout à fait. Oui. Alors, je pense qu'on a tous, si vous voulez, le très bonne question. Oui, on est. Le fait d'être chrétien fait qu'on est configuré au Christ. Le Christ, on l'a dit avant tout, un missionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il est le Verbe de Dieu. Donc, il est la parole même de Dieu qui se fait homme pour dire en mots humains la parole qui est Dieu lui-même, et la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu. Donc, tout chrétien étant configuré au Christ qui est la parole même de Dieu, tout chrétien est un parlant de Dieu. Alors, comment parler de Dieu ? Donc, c'est là où, selon la prudence, les circonstances dans lesquelles on est placé et les différents devoirs qui incombent à notre place, vont être différents les uns des autres. Mais le premier devoir de parler, c'est déjà d'avoir un agir qui tend à être conforme avec ce que nous demande Dieu, ce que nous croyons de Dieu. Je dis qu'il doit être conforme, parce qu'il ne l'est pas toujours, malheureusement, mais on doit tendre à cette conformité. Deuxièmement, on doit toujours répondre aux questions qu'on nous pose sur la foi. Et on ne doit jamais laisser la foi moquer devant soi, sans rien dire ou sans rien faire. Parfois, on ne peut rien dire, parce que voilà, mais il faut au moins partir montrer qu'on est en désaccord. C'est le premier des témoignages. Et de l'amour et du respect qu'on a pour la vérité, et de l'amour qu'on a pour ces gens-là qui se moquent de celle-ci. Oui. Pas faire semblant d'approuver. Et la troisième étape, c'est de prendre l'initiative de parler. Alors là, je parle, vous voyez, dans un cadre général, hein, je ne parle pas du devoir qu'on a vis-à-vis de ses propres enfants ou des gens dont on nous a donné directement la charge pour l'éducation. Hein. Là, je parle dans le monde en général, hein, parce que voilà, les deux premières ne suffiraient pas autrement. Mais la troisième, donc, c'est selon les circonstances, les occasions suscitées par la Providence, l'inspiration, pour le coup, de l'Esprit Saint, qu'on doit prendre l'initiative de parler de sa foi. Donc là, c'est effectivement, il y a un travail discernement à faire. C'est sûr qu'on ne convertira pas en parlant de Jésus tous les jours au boulot, qu'on ne demande rien, en faisant la leçon à tout le monde sur tous les manquements qu'on a pu se rendre coupable. C'est une évidence. En revanche, ne jamais parler de ce qui nous habite au plus profond lorsqu'on nous demande nos goûts, nos centres d'intérêt, nos voyages, et taire tout ce qui aurait une connotation religieuse pour ne pas gêner, là, il y a clairement, à mon avis, une faute. Après, il faut essayer de prendre l'initiative en saisissant les occasions. Et puis, quand il y a un climat de confiance suffisamment établi, et une crédibilité parce qu'on fait bien son devoir d'État et que, globalement, du coup, les gens voient qu'on est sérieux, qu'on est crédible, voilà, et bien là, on peut, et même parfois on doit, lancer une petite... une petite phrase, un petit galet, on voit la réaction, on voit si c'est prudent de continuer ou si c'est pas prudent. Mais moi je pense que c'est bien, je l'avais déjà dit je crois en sermon, d'avoir un signe distinctif, je n'ai pas l'air de grande croix, mais un signe distinctif, qui fasse que si la personne veut poser une question à quelqu'un qui connaît la foi chrétienne, ben, sache à qui se tourner sans le gêner. Mm-hmm. Vous voyez, nous on le voit avec la soutane, hein. C'est sûr que ça met tout de suite à l'aise. Ou pas, mais enfin, les gens qui viennent, ils savent que ils savent qui on est, ils savent qu'on ne va pas les envoyer bouler si on nous parle de Jésus. Au contraire. Donc ça, je pense que c'est bien. Après, c'est du cas par cas, je ne vais pas au-delà dans les conseils, ça dépend tellement des circonstances qu'il faut voir. D'autres questions ? Bon, c'est peut-être encore un peu trop en monologue, il n'y avait pas beaucoup d'échanges, mais c'est ça.
Vous avez le temps. Non, il y a des questions sur
le...